Salut. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur pour 2026. Beaucoup, beaucoup d'inspiration et beaucoup d'énergie pour avancer dans ce monde fou. J'avais envie de vous faire une petite vidéo news parce que j'en fais pas souvent, mine de rien. J'avais envie de vous tenir au courant de ce qui s'est passé sur la chaîne en 2025 et ce qui arrive en 2026, que ce soit sur la chaîne ou hors de la chaîne. Et au passage, vous conseiller quelques petits films et faire quelques petits rattrapages de 2025 niveau cinéma. Donc écoutez, on est parti.
On est bon.
Bonjour à nouveau. Vous l'avez sûrement vu, à partir de la mi-2025, j'ai remanié la chaîne, je l'ai reprise en main avec un rythme de publication plus soutenu. Et bon Dieu, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que j'ai tendance à fonctionner par cycle. Je pense que depuis le début de la chaîne, vraiment, on peut identifier des cycles au fil des ans très clairs. Et pour tout vous dire, à la mi-2025, j'en ai eu un petit peu ma claque de systématiquement me prendre en otage de vidéos qui s'étalaient toujours sur des mois entiers. J'en ai juste ma claque, en fait, de considérer comme normal de passer une semaine sur une transition d'une demi-seconde juste pour le panache, alors que ça n'intéressera personne. Il y a un moment, en fait, où j'ai eu envie de plus de spontanéité et plus de réactivité. Et le truc, c'est que quand tu t'habitues et quand tu habitues les gens à un certain type de truc, ici, en l'occurrence, des vidéos thématisées, très écrites et très travaillées en termes de forme, il y a un moment où, sans en avoir conscience, tu finis par t'interdire de faire des choses plus spontanées et plus minimalistes en termes de forme, parce que t'as l'impression de trahir le pacte tacite que t'as passé avec ton public. Et c'est fou, ça devrait pas être le cas. Et j'ai eu envie vraiment de renouer avec quelque chose, une sorte de format qui me permette d'aborder de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus légère et spontanée, les choses qui m'interpellent, qui m'intéressent, les œuvres que j'ai découvertes, les questionnements qu'elles m'ont inspiré. Et c'est des questionnements et des choses qui m'intéressent, qui évoluent parfois d'une semaine sur l'autre. Prendre des sorties récentes et les utiliser comme un trampoline pour parler de thématiques qui les dépassent, c'est vraiment un truc qui m'a fait du bien de réétablir, je veux dire. Parce que quand je parle de Avatar 3, par exemple, c'est bien entendu pas pour vous conseiller ou non d'aller voir Avatar 3, on s'en fout ça. C'est pour se demander, tiens, mais aujourd'hui c'est quoi un artisanat d'écriture classique? Un artisanat de narration classique, et comment parfois il est plus fin qu'il n'y paraît. Si je parle de Alien Earth, c'est pour parler de ces mythologies mortes vivantes qu'on en finit plus de réanimer de façon artificielle, et se demander, mais si on veut avancer culturellement, il va peut-être falloir lâcher prise avec certains trucs qu'on a tendance à considérer comme des acquis. Si je parle de 28 ans plus tard, c'est pour se demander ce qu'est aujourd'hui une image de cinéma. Si je parle de Superman, c'est pour se demander, mais tiens, dans une pop culture qui a de plus en plus tendance à nous rendre cyniques, est-ce qu'une œuvre de cette ampleur peut encore prétendre vouloir proposer un divertissement innocent? Et dans ce cadre-là, ça veut dire quoi, innocent? Et surtout, même si les gens qui ont fait l'œuvre sont sincères à ce niveau-là, est-ce qu'en tant que public, on est encore en mesure d'accepter que ça puisse être innocent ou prétendre être innocent? Enfin bref. Tout ça, c'est vraiment des prismes à travers lesquels je parle de trucs qui m'interpellent, quoi. En fait, cette chaîne n'a jamais vraiment été une chaîne de prescription. Ça m'arrive de vous conseiller des trucs, bien entendu, mais ça a toujours avant tout été une chaîne de sujets. Et j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est pas proprement parler une chaîne sur le cinéma, ça fait bizarre de le dire comme ça, c'est une chaîne qui parle de notre rapport aux images, qui est aujourd'hui vertigineux, effrayant, passionnant aussi, et que plus que jamais qu'il faut décortiquer pour comprendre le chaos et la folie de ce qui nous entoure. Et c'est une chaîne qui parle de notre rapport aux images à travers, en l'occurrence, l'exemple du cinéma. Mais ça pourrait être à travers autre chose. Je pourrais parler des mêmes thématiques à travers la musique, la peinture, la géopolitique, enfin bref. Le truc, une fois n'est pas coutume, c'est que j'ai pas envie de m'échapper tout de suite de ce format. Parce que j'ai un problème. c'est que dès qu'un truc fonctionne sur la chaîne, dès qu'un format s'installe, j'ai le réflexe de m'en échapper ou de le foutre en l'air. C'est un vrai problème. Et là, bouffée d'air frais, j'ai pas envie tout de suite de m'en échapper. Ça m'empêchera pas, bien entendu, dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient, de vous proposer, quand j'en aurai envie, quand l'inspiration viendra sur tel ou tel truc, de vous proposer des vidéos écrites plus classiquement et avec une forme plus travaillée. Mais j'aime bien, à ce moment-là, dans cette période, avoir ce format très spontané enfin, qui est très réfléchi aussi, mais très spontané, en tout cas comme socle. Ça me fait plaisir aussi de rétablir cette espèce de connexion plus régulière avec vous qui m'évoque plus vraiment un dialogue. Alors bien sûr, comme à chaque période où je parle un petit peu plus de choses visibles et mainstream, en apparence en tout cas, à travers d'une manière qui se voit dans les vignettes et dans les titres, j'ai droit au sempiternel, espèce de vendu, tu es américanisé à la solde du grand capital, tu ne parles que de blockbusters et tu devrais utiliser ta plateforme et ta visibilité pour parler d'œuvres plus méritantes. Des œuvres qui, elles, ont besoin de plus de visibilité. À ceci, mes petits poulets, je vous répondrai. Déjà, prenez 3 secondes au moins pour essayer de comprendre la démarche des vidéos en question. Et surtout, par exemple, il y a quelques mois, quand je faisais une vidéo pour parler de Karel Zeman et John Frankenheimer, une vidéo qui a bidé comme très rarement une vidéo a bidé sur la chaîne, vous étiez où ? Vous étiez où quand je faisais Caméra Obscura ? Vous étiez où quand, jusqu'à très récemment, je faisais des vidéos thématisées, très travaillées, autant sur la forme que sur le fond, et qui me permettaient au passage de conseiller toutes sortes de références moins évidentes, moins connues, que j'avais envie de vous faire découvrir ? Vous étiez où ? Vous étiez pas là ! En tout cas, vous étiez pas dans les commentaires en train de dire « Ah, cool, mec !» Donc bon, il va falloir être un petit peu cohérent. Mais au-delà de ça, si j'en crois la vaste majorité de vos retours et votre manière de faire exister les thématiques et d'établir des dialogues dans les commentaires, vous avez l'air de vraiment, vraiment kiffer cette démarche et ça me ravit, encore une fois, de rétablir cette connexion plus régulière avec vous, plus vivante, donc. Je suis en train de hugger mon micro dans un cardigan. Pas que le vent l'emmerde trop. Écoutez, on va voir comment ça se passait. Du coup, qu'est-ce qui va se passer pour 2026 ? Déjà sur la chaîne, je vais continuer le format que je pratique depuis la mi-2025, parce que je l'aime bien. De toute façon, je fonctionne à l'inspiration du moment et je peux pas savoir trop en avance ce qu'il y aura. Mais voilà, j'ai toujours envie de vous proposer des choses, en tout cas, qui m'excitent. Sinon, je vois pas l'intérêt. En dehors de la chaîne, la revue Estrange, le prochain numéro sort en avril. J'ai quelques projets d'écriture sous forme de livres et surtout des films que je développe, des films que j'écris et réalise et donc développe à ce niveau-là. Mais ça, je vous en parle un petit peu plus tard. Vous avez été aussi nombreux à me poser des questions au fil du temps. Je les ai un petit peu regroupées pour pouvoir y répondre. Du coup, je vais en profiter ici. Vous êtes nombreuses et nombreux à me demander des conseils sur les manuels d'écriture de scénario ou de... Enfin voilà, de filmmaking, de manière générale. J'en ai pas en particulier. J'ai l'impression que, et c'est très bien, les manuels apprennent surtout comment aborder les différentes structures de récits qui existent. Les manuels comme le tristement célèbre Save the Cat, qui est un très bon manuel à lire, mais pas pour apprendre vraiment à faire des scénarios, mais surtout pour comprendre pourquoi tout se ressemble à Hollywood depuis la fin des années 90 sur le cinéma grand public. Personnellement, mon apprentissage est le plus passé par l'observation. Au fil du temps, c'est très très bien d'apprendre comment fonctionnent les codes sur les formules de narration classique, mais la manière de donner vie à ces codes ou la manière de les tordre pour en faire autre chose ou pour les ignorer quand... Bref, pour construire votre vision du truc, ça s'apprend uniquement par la pratique et l'observation. Venons sous un pont, histoire d'avoir un petit peu de bruit parasite. On aime ça les bruits parasites, non ? Une autre question qu'on m'a posée, c'est à quoi tu joues ? À quoi tu joues ? Ces dernières années, je me suis acheté une Switch pour avoir le plaisir de jouer à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui sont deux putains de chefs-d'œuvre. J'ai retrouvé des sensations de jeu devant ces deux Zelda que j'avais pas eu depuis que j'étais ado. Mais un jeu, vraiment, ces deux dernières années, auquel j'ai été accro, un peu trop pour mon propre bien, c'est Hades. Putain, je l'ai poncé dans tous les sens, ce jeu. Je crois que je l'ai fini à... 99,6%. Je crois que les 0,4%, c'est juste un poisson à la con que je dois encore pêcher quelque part. Mais voilà. Le 2 est vraiment, vraiment très, très cool. En termes de narration et de lore, il est beaucoup plus intéressant. Mais en termes de mécanique de jeu, je trouve qu'il perd un petit peu de la limpidité qui rendait le premier aussi addictif. Voilà à quoi j'ai joué ces deux dernières années. Aussi, j'y pense et j'en profite. C'est pas une question qu'on m'a posée, mais à chaque fois dans une vidéo que je parle du fait qu'on ne transpire pas dans Dune, j'ai toute une cohorte de spécialistes de la transpiration dans le désert qui débarquent pour me dire que non, mais dans les déserts chauds et secs, on ne transpire pas. Ou plutôt, on transpire, mais la transpiration s'évapore à cause des conditions très arides. Et du coup, on ne voit pas la transpiration. Certes, dans certaines conditions. Mais dans le désert, comme partout ailleurs, la température et les conditions évoluent. Notamment quand la journée passe, quand le soir arrive, quand la nuit arrive. Généralement, la nuit, il fait froid dans le désert. Donc, selon le moment et l'endroit du désert dans lequel tu te trouves, il y a pas mal de moments où tu te retrouves face à des types de chaleur qui sont beaucoup plus classiques, qui sont l'équivalent d'un petit 35 degrés à Carcassonne. Vous voyez ce que je veux dire ? 35 degrés à Carcassonne, tu transpires. Dune ne se passe pas uniquement au milieu du désert à midi. Ça se passe sur Caladan, sur Arrakis, de jour, en soirée, la nuit. Elle se passe en plein milieu du désert, elle se passe dans les Sitch, elle se passe à Arrakis, elle se passe dans le palais. Bref, il y a tout un différent panel de conditions qui devraient faire en sorte qu'à certains moments, bah oui, les personnages vont transpirer. Et ça pourrait être intéressant, justement. On les voit transpirer, être incommodés par la chaleur dans certaines conditions, et d'un seul coup, ils se retrouvent au milieu du désert, et un personnage s'étonne que d'un seul coup, putain, je transpire pas, qu'est-ce qui se passe ? Et un autre personnage lui explique ça. Et là, d'un seul coup, avec le personnage, en tant que spectateur, on comprend l'hostilité inédite des conditions. Et là, on se dit, putain ! Parce que dans les dunes de Villeneuve, la sensation de chaleur n'est pas spécialement appuyée. Quand Paul, dans le premier, sort rencontrer le jardinier, il est légèrement incommodé, mais tu sens que ça va. Encore une fois, on est sur un 32 degrés à Carcassonne, quoi. Donc voilà, je persiste et je signe. Si les gens ne transpirent pas dans Dune, c'est un choix de celles et ceux qui ont fait le film. Et je trouve ça dommage parce que, putain, mais faites transpirer les gens dans vos films, c'est vachement bien. Hop, on m'a aussi beaucoup cette dernière année demandé mon avis sur l'IA. Je répondrai par une question, quelle IA ? Le corbeau se demande aussi. J'imagine que vous parlez des IA génératives. Et mon opinion sur les IA génératives, c'est qu'elles détruisent minutieusement, méticuleusement notre sensation de réel partagé et donc notre capacité à vivre ensemble en société. Voilà, ça fait quelques années que la notion de vérité n'intéresse plus grand monde. À mon humble échelle, j'en sais quelque chose. Pendant ce temps, les puissants de ce monde œuvrent méthodiquement aussi à détruire toute notion de réalité objective et répandent le chaos pour servir leurs intérêts. Et les IA génératives viennent s'ajouter à ça pour finir d'achever ce tableau qui devient vraiment effrayant, en nous privant de la capacité à déterminer ce qui est vrai ou faux, réel ou artificiel. On entre vraiment dans une période là où on, même d'un œil expert, on ne peut plus se rattacher aux détails qu'on utilisait jusque-là pour déterminer si quelque chose est IA ou pas. IA générative ou pas, ou si on n'est pas encore, on va y être très très bientôt. Le vent a foutu en l'air les prises son de la partie sur l'IA que j'ai tournée dehors. Du coup voilà, je vais la finir ici, cette partie. Je me suis réfugié dans le garage. Salaud de vent. Ce que je disais, c'est que pour reprendre une expression que beaucoup de gens utilisent depuis quelques années, le génie est hors de la lampe, la boîte de Pandore est ouverte. Les IA génératives sont là, elles vont nulle part ailleurs. Du coup, il y a des gens qui se posent de bonnes questions et qui essayent, particulièrement en ce moment, de trouver des solutions pour que les IA génératives puissent être intégrées dans le workflow des industries culturelles. En l'occurrence aussi, l'industrie du cinéma et notamment les départements d'effets spéciaux, d'une manière qui soit éthique, ou en tout cas la moins non-éthique possible, et qui fasse le moins de dégâts à l'être humain au passage. Ça va être compliqué parce que, vu la fuite en avant dans laquelle le monde se trouve, les questions d'éthique n'ont pas l'air d'intéresser grand monde. Ce qui intéresse surtout, c'est d'avoir des résultats rapides, donc l'IA est parfaite pour ça. Et au-delà de l'industrie, de ce que je vois des usages plus individuels, des IA génératives, notamment sur Insta, TikTok ou ailleurs, enfin sur les réseaux, au-delà du tsunami de AI slop qu'on se prend dans la tronche depuis quelques temps qui nous pourrit le cerveau. J'ai l'impression que pas mal de gens qui s'autoproclament créateurs IA ou créatifs IA ou artistes IA, de ce que j'ai pu observer, ont tendance à quand même être souvent d'énormes guignols qui pensent que rentrer 3 prompts et mettre le résultat sur Insta fait d'eux des artistes. Mais le truc, c'est que les IA génératives devraient te permettre de faire plus rapidement et plus efficacement des trucs que tu sais déjà faire à la base. Et si tu veux rajouter une petite pincée de sel créative, aléatoire, que les IA vont apporter auxquelles tu n'aurais pas pensé, ça reste une pincée de sel ou de sucre. Il y a depuis quelques années vraiment un discours chez beaucoup qui consiste à dire que les IA génératives permettent de démocratiser l'accès à la création et décupler la créativité chez beaucoup de personnes. Ça décuple rien. C'est un outil, ça décuple rien. Ça permet de donner forme à ce que tu as à dire, mais si tu n'as rien à dire à la base, ce n'est pas l'IA générative qui va te l'apporter. Si tu remplis du vide avec du vide bien emballé et joli, ça reste du vide. Depuis quelques années, le fait de tout pouvoir représenter n'est plus un enjeu. On peut tout représenter. Du coup, ça a resitué l'attention sur qu'est-ce que cette image me raconte. Et en l'occurrence, chez beaucoup de créations IA que je vois passer dans notre paysage, ça ne raconte absolument rien. Après, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des usages des IA génératives qui ne sont pas inintéressants. Même vraiment fascinant. Ça m'est arrivé de tomber sur des pages et des créatifs qui proposent en fait des sortes de dreamscapes, des paysages oniriques qui sont vraiment vertigineux. Il y a un truc très bizarre qui est vraiment science-fictionnel où je regarde ça, ça m'est arrivé de me perdre pendant des heures, des fois devant. Je regarde ça, j'ai l'impression de sonder les rêves des machines et sonder l'inconscient de l'humanité au passage à partir de laquelle les machines ont été entraînées. C'est très bizarre parce qu'à la fois c'est familier, mais c'est complètement autre. J'ai l'impression que cette nouveauté, cette part de nouveauté, on va dire, dans la création IA, c'est un truc qui est vraiment détaché de nous. Au-delà de la personne qui est entre les prompts et tout ça, il y a quelque chose qui relève de l'aléatoire et qui appartient uniquement à la machine au bout d'un moment. Il y a d'autres artistes au-delà de ça qui ont des manières d'intégrer les IA génératives à leur boulot de façon aussi qui est assez intéressante. J'ai interviewé un artiste qui s'appelle Marcus Wallinder pour Estrange, qui est un artiste visuel qui utilise à un moment précis, très court mais précis dans son processus créatif, les IA génératives pour déclencher une forme d'aléatoire. Un aléatoire qui va ensuite retravailler complètement. Donc il y a cette manière vraiment de travailler à travers toute sa production sur la notion d'aléatoire et ce qu'elle signifie aujourd'hui avec les IA génératives. Et au-delà de tout ça, bien sûr, il y a des gens qui explorent les IA génératives pour faire tout un travail de pédagogie qui est absolument essentiel aujourd'hui. Parce que oui, il faut comprendre comment elle fonctionne, pourquoi elle fonctionne d'une certaine manière. Et il y en a certains qui font ça très bien, genre Atom Visual sur sa chaîne, il fait ça de manière admirable. C'est loin d'être le seul. En fait, les cas positifs d'exploration des IA génératives, que ce soit créativement ou en termes de pédagogie, existent. Mais le truc, c'est qu'ils sont écrasés sous l'immense majorité des cas de figure qui sont en train juste de nous foutre en l'air, qui sont en train de foutre en l'air notre réel. J'ai rien contre les IA génératives en elles-mêmes. C'est un outil, tu peux pas en vouloir à un outil. Ce qui est inquiétant, c'est la manière dont elles sont utilisées dans l'immense majorité des cas. Est-ce que c'est en train de faire notre psyché ? C'est ce que c'est en train de faire à la psyché des gens. Le truc, c'est qu'en tant qu'espèce, on n'est pas assez mature pour naviguer ces outils aujourd'hui. Après, voilà, on est une espèce fondamentalement stupide. On est une espèce qui a besoin de se prendre continuellement des grosses claquasses dans la gueule de la part des circonstances pour faire « Ah, oui, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. » Oui, t'aurais pas dû, du con. C'est pas comme si la science-fiction te mettait en garde contre certains trucs depuis des siècles et que t'y fonçais quand même tête baissée. Mais bon, c'est ainsi. Ça a toujours été le cas, ça continuera à être le cas, et là on est en plein dedans sur les IA génératives. On n'est pas assez mature, mais il va falloir quand même faire une sorte de dérapage contrôlé et limiter les pots cassés au maximum. Et ça n'empêche pas que les pots cassés, ils vont rien avoir, beaucoup, beaucoup. Et pour ce qui est de mon cas personnel, j'ai pas d'envie spécialement d'utiliser des IA génératives dans mon propre boulot. Alors les outils d'IA générative de texte, ça n'en parlons même pas, j'ai un petit peu trop de respect pour vous et pour moi-même pour laisser une machine écrire à ma place. Et je sais pas, j'ai l'ambition folle, que dis-je, l'arrogance peut-être, d'essayer d'écrire des trucs qui sont pas reproduisibles comme ça par une IA. Et un truc dont on parle très très peu souvent, dans les débats qui entourent les IA génératifs, c'est et le plaisir du processus. Je sais qu'on est tous en train de courir à FOMO à fond pour courir après quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on court, tout doit être rapide. Mais le plaisir du processus, le plaisir de galérer, de trouver des solutions, le plaisir de progresser, le plaisir d'ouvrir tes horizons, le plaisir de gagner des skills dans ton artisanat, ça on n'en parle plus, c'est quand même bizarre, non? Perso, j'aime écrire. Et pour ce qui est des outils d'IA visuels, j'utilise avec grande parcimonie le Generative Fill de Photoshop juste pour faire de l'extension de décor. Genre quand je filme mes chroniques sur fond noir, le fond noir n'est pas assez gros pour occuper tout le cadre, dans la manière dont je cadre. Du coup, je vais sur Photoshop, je fais Generative Fill, pouf, et ça étend juste dans les coins le fond noir. Voilà, je fais ce genre de truc. J'ai pas l'impression de voler le boulot de quelqu'un en faisant ça, c'est juste que je fais en deux clics, en une minute, ce qui me prendrait 20-30 minutes de manière manuelle. Parce que oui, je suis une grosse quiche en Photoshop à ce jour. Voilà, ça par exemple, c'est une extension de décor via le Generative Fill de Photoshop. En vrai, c'est ça. Ouais.
plutôt cool.
Plutôt cool. Et une autre question qu'on m'a posée très souvent, c'est est-ce que tu as des projets de films ? Et la réponse est oui. En ce moment, je développe des films, des courts-métrages, mais aussi des choses un petit peu moins courtes. Et à ce niveau, un truc qui m'accapare beaucoup en ce moment, c'est un film que j'ai écrit, réalisé et tourné il y a quelques mois, qui s'appelle Have a Great Apocalypse. C'est un court-métrage, mais c'est un long court-métrage, il fait dans les 22-23 minutes. Pourquoi en anglais, vous me direz ? Parce que je l'ai écrit en anglais et je l'ai tourné avec une équipe anglophone, tout simplement. C'est une comédie surréaliste sur le fait de vouloir créer alors qu'on a la sensation que le monde s'écroule autour de nous. Voilà, ça a l'air familier ? Ça l'est, c'est normal. Comme d'habitude, ce que j'essaie de faire dans mes projets créatifs, c'est ce que j'aimerais voir, en fait. Et ça fait des années que je suis assoiffé d'un certain type de comédie surréaliste avec une dimension visuelle. Et ce type de film, ce type de comédie ne se fait plus du tout. Du coup, j'ai eu envie de me remonter les manches et de faire ma propre version de ce que j'aimerais voir. Je suis super excité de la forme qu'est en train de prendre le film. Là, il est en post-prod et il sera terminé d'ici, je pense, un ou deux mois. Je ne l'ai pas fait pour YouTube, c'est pas la première destination du truc. D'abord, je vais le faire vivre en festival, lui donner une première vie à ce niveau-là. Et il y a bien un moment, je pense que je le mettrai sur YouTube ou je le rendrai accessible en public. Mais bien entendu, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, on a tourné une scène dans cette rue même où je me tiens en ce moment. Je joue un tout petit rôle dans le film, mais c'est vraiment juste histoire de faire coucou. Parce que, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, s'il y a bien un truc que m'a appris le Fossoyeur, c'est que réaliser et jouer en même temps, c'est pas pour moi. À moins d'être sur une énorme prod où t'as vraiment tout calé en amont, il n'y a aucune improvisation sur le tournage, et donc t'as plus, en tant que réalisateur slash acteur, t'as plus qu'à dire à ton directeur photo qui te montre le combo, ouais, cool. À moins que ça soit comme ça, c'est vraiment... Tu peux pas séparer ton cerveau et d'un seul coup être vraiment dans la préparation d'un plan et switcher dans ton... d'un seul coup dans un boulot d'acteur et te mettre dans la zone, enfin c'est infernal. En plus, moi, en tant que réalisateur, je suis très main dans le cambouis dans mon approche. Je suis toujours avec le directeur photo derrière la caméra en disant « Tiens, on peut utiliser un objectif différent. Tiens, si on improvisait ça, tiens, là, il y a un truc. » J'aime beaucoup aussi énormément prévoir en amont. J'ai une idée très précise de certaines choses que je veux, mais je veux aussi préparer suffisamment pour avoir la liberté, une fois sur le tournage, de pouvoir improviser et de continuer à créer sur le tournage. Sinon, si c'est juste une exécution de ce qui est sur la page, une exécution froide et sans surprise, c'est très ennuyeux. Il faut vraiment continuer à créer, pour moi en tout cas, à chaque étape, on va dire, du processus. Et c'est comme ça que j'arrive à le faire en tout cas, en étant constamment... C'est une activité très physique, être réel, pour moi en tout cas. Enfin voilà, bien entendu, je vous tiendrai au courant de tout ça. Ce genre de projet prend très longtemps, comme vous le savez. Du coup, quand un film sort, c'est un petit peu comme regarder les étoiles, tu regardes dans le passé. Mais voilà, je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer, bien entendu. Hop, nous revoici à l'intérieur. Je vais finir la vidéo en revenant sur quelques films que j'ai vus en 2025. Pour X raisons, certains que j'ai aimés, certains que j'ai pas aimés. C'est pas un top. C'est juste, voilà, des films dont j'ai envie de vous parler rapidement. Il y en a pas mal, du coup, je vais pas m'apesantir, je vais pas m'éterniser sur chacun d'entre eux. Je suis sûr qu'il y en a certains qui sont sortis avant 2025, dans le tas. Les rythmes de sortie, des fois, sont tellement explosés, et de toute façon, mon rythme de découverte des films n'est pas vraiment axé sur l'actualité, contrairement à ce que les vidéos que je fais depuis quelques mois peuvent laisser penser. Alors bien sûr, il y a plein de films en 2025 que j'ai pas encore vus, qu'il faut que je rattrape, genre Sirat, très envie de le voir. Anémone, du fils de Daniel Day-Lewis, pas encore vu. Ou Résurrection, le film de SF chinois existentialiste, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Du coup voilà, ce n'est pas exhaustif, et c'est pas un top. The Brutalist, j'ai adoré. Ce film, vraiment, s'il y avait une définition dans le dictionnaire de souffle cinématographique, je pense qu'on pourrait mettre The Brutalist en exemple parfait de ça. C'est un film qui a coûté à peine 10 millions de dollars et qui a une ampleur qui est invraisemblable. Surtout quand tu la mets encore une fois en comparaison avec son budget rikiki qui est ridicule, vraiment. C'est le budget d'un film français qui se passe dans un appartement parisien, quoi. Et le film a une telle ampleur par ses cadrages, par sa musique qui est incroyable, mais aussi par narrativement, son habileté vraiment à toujours mettre la petite histoire en parallèle avec la grande. Vraiment, il a un souffle qui n'a rien à envier à un There Will Be Blood. J'ai eu la chance de le voir en IMAX, celui-là. Vu le travail incroyable sur l'image, cette espèce de classicisme, bam, lourd au bon sens du terme, dans la manière vraiment de construire les plans, ça m'aurait fait mal au cul de le voir dans de mauvaises conditions. Mais là, j'ai eu la chance vraiment de le voir là-dedans. Et peut-être que ça a augmenté un petit peu aussi cette sensation d'ampleur, vu que littéralement, l'écran faisait 3 km de haut. Strange Darling, c'est un petit film de genre malin, étonnant, que je vous conseille. Raconté dans le désordre, mais c'est pas une narration non linéaire, parce que ça fait cool et j'ai envie de faire mon pulp fiction. Non, c'est vraiment justifié par ce que ça raconte et là où le film veut laisser des zones d'incertitude. C'est avec Willa Fitzgerald, qui est Willa Fitzgerald, pas Ella Fitzgerald. C'est une actrice qu'on avait vue dans la première saison de Richard, qui est géniale. Et c'est une sorte de ballet de mort entre une femme et un homme où tu sais jamais qui prend l'ascendant ou pas, enfin en tout cas pendant une bonne partie du film. C'est vraiment cool et le directeur photo, c'est Giovanni Ribisi, l'acteur que vous avez vu dans Lost in Translation, Avatar et compagnie. Le mec développe en parallèle une carrière de directeur photo. Voilà, c'est étonnant. Que ton règne vienne, c'est un documentaire immersif et très cinématographique français, réalisé par Mathias Averti, qui fait partie du collectif de cinéastes nantais Les Furtifs, qui est un collectif vraiment super intéressant. Je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. Et c'est un documentaire sur le satanisme français, qui se déroule principalement entre Marseille et Nantes, on va dire, avec des références façon Herzog, Jodorowsky ou ce genre de choses. Il y a vraiment une démarche chez Mathias Averti que j'ai le plaisir d'interviewer pour le prochain numéro d'Estrange, où il veut vraiment rendre des petits récits à taille humaine, les raconter de façon mythologique, et trouver en fait le mythologique et l'ampleur dans des trajectoires de vie qui pourraient paraître très intimes et très petites, mais elles ne le sont pas du tout. Il y a vraiment une dimension très cinématographique et une volonté de proposer un cinéma autre qui est admirable. The Monkey de Oz Perkins. Alors Oz Perkins est vraiment prolifique ces dernières années, particulièrement depuis Long Legs. On peut pas réussir à tous les coups. Pourtant, The Monkey, ça fait envie sur papier, hein. Réalisé par Oz Perkins, produit par James Wan, adapté de Stephen King. Mais tu sens que c'est plus un film récréatif qu'autre chose, c'est une bonne pochade rigolote, mais qui prête pas à conséquence et qui n'a pas grand chose de marquant. Du coup, ça va plutôt pour la curiosité, mais c'est vraiment. Dans la filmo de Oz Perkins, c'est vraiment une œuvre mineure de chez mineure. Keeper, qu'il a fait juste après. Ou pendant que The Monkey était interrompu par les grèves de scénaristes, ils ont bidouillé Keeper au Canada avec des gens qui n'étaient pas dans SAG-AFTRA. Du coup, ils ont pu faire ce film, qui est un petit film d'horreur qui se passe dans une maison paumée dans la nature, qui s'est fait défoncer. Tout le monde a l'air de détester Keeper, je comprends pas pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi. C'est un film sur le fait que les relations peuvent devenir vampiriques, littéralement. Il a des défauts, bien entendu, comme cette tendance parfois à sur-expliquer son lore et la sempiternelle scène d'exposition qui arrive au deux tiers, t'es en mode, mais on n'a pas besoin de ça. Mais, putain, le travail d'atmosphère, le travail de cadrage. Moi qui aime beaucoup l'espace négatif dans le cadrage, putain, ça c'était de l'espace négatif porn. Et je pense que vraiment, il y a un truc où les gens sont tombés sur la gueule de Keeper parce que c'est le film qui est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment dans la filmo de Oz Perkins, où les gens commençaient à dire, ouais, tu fais trop de films là, et le succès de Long Legs et ça. Sa campagne de marketing maligne, on va te le faire payer. Du coup, il s'est tapé vraiment une mauvaise réputation qui n'a pas lieu d'être. Il a une direction artistique vraiment cool et les dizaines de créatures, sans en dire trop, sont... vraiment. J'ai beaucoup aimé Keeper. Together, réalisé par un Australien dont le nom m'échappe, et avec Dave Franco et Alison Brie. En couple à la ville, sont aussi un couple à l'écran dans ce film. C'est un film vraiment sur... non pas... sur le même vampirisme des relations que dans Keeper, mais sur le fait que des relations problématiques peuvent devenir fusionnelles et en fait tu te perds littéralement dans l'autre. C'est un film qui est sympa, qui a beaucoup moins de personnalité je trouve dans l'approche en termes de forme que Keeper, mais qui a de très très bonnes idées. Il a aussi des défauts, les sempiternelles scènes d'exposition qui viennent dans ce genre de film. C'est ce qu'on trouve dans Keeper x10 dans Together. Je pense pas qu'il y avait du tout besoin de ça. Je veux dire, tu peux fonctionner à un niveau totalement symbolique et thématique sur le fait que deux personnes se mettent à fusionner. C'est comme dans Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Enfin, il n'y a pas à développer des scènes entières d'exposition pour dire pourquoi le mec se transforme en machine ou en espèce de blob biomécanique. Enfin, non. Il y a un truc qui est encore plus effrayant quand tu vas pas chercher dans une sorte d'exposition rationalo-magique de ce côté-là. Par contre, sur le lore qui n'est pas du tout expliqué sur l'autre côté de, du spectre, on a Bring Her Back, des frères Philippou. C'est youtubeur australien masochiste qui ont fait Talk To Me, que j'avais beaucoup aimé. Et Bring Her Back, vraiment, les mecs ont un style. Les mecs, ont, mais pas juste du style en termes de forme, ils ont vraiment des obsessions, notamment pour la maltraitance des corps. Vraiment, les corps amochés. Et c'est un truc qu'on voyait dans leur chaîne YouTube, qui, vraiment, les mecs sont masochistes. Mais c'est un truc qu'on voit, qui se développe beaucoup dans leurs films et leur manière d'approcher l'horreur. J'ai un peu moins aimé Bring Her Back que Talk To Me, mais c'est des auteurs. Ils sont bons, ils sont super bons, c'est des auteurs, et ils développent là une filmo qui est jusque-là très cohérente. Oh, deux films, c'est pas énorme pour juger une filmo, mais ça reste très cohérent dans l'approche. Et là, en termes de refus d'un lore surexpliqué de l'exposition, c'est presque l'extrême inverse. Si le spectre entre l'absence d'exposition est là et la surexposition est là, ils sont pas dans le juste milieu, ils sont là. Moi, j'aurais bien aimé un truc juste là. Parce qu'il y a tout un truc vraiment, sans en dire trop sur le film, si vous l'avez pas encore vu, sur des choses que le personnage principal féminin regarde à la télé, des sortes de rituels qui sont pas expliqués, tu sais pas d'où ça sort, tu sais pas pourquoi. En même temps, il a réussi parce qu'il me donne faim d'en savoir un petit peu plus, justement, sur ce lore qui est tracé en filigrane du film. Il y a certains moments du film où j'ai presque eu l'impression d'avoir envie de voir, pas ce film-là, mais l'autre film, en fait, qui racontait ce qu'on voit des personnages qu'on ne fait qu'apercevoir à certains moments. Bref. Presence, autre film d'épouvante de Steven Soderbergh, qui a un gimmick très intéressant, c'est de faire un film de hantise qui est entièrement raconté du point de vue du fantôme. Donc c'est vraiment du POV tout le long. Et c'est un film, c'est une curiosité, vraiment, c'est très intéressant à voir, mais le film a beaucoup de mal à dépasser son gimmick. Une fois que t'as compris le délire, t'es en mode, bon... Il y a quelque chose, il y a un payoff à la fin qui va justifier, en fait, que ce soit raconté sous le point de vue du fantôme, mais c'est plus, ça fait plus l'impression d'un exercice de style. Avec une petite saveur années 90 que je m'explique pas. Le film est écrit par David Koepp, qui avait fait, par exemple, Hypnose, avec Kevin Bacon. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a ce côté presque minimaliste, très qui refuse d'être conscient de lui-même, qui refuse la tentation du méta et de la surconscience des images pour raconter. Il y a presque une innocence dans la manière de ce film. J'aurais bien vu en fait Présence être fait 99-2000 quoi. T'as presque l'impression de redécouvrir un film de l'époque avec une esthétique actuelle. C'est très bizarre. Sinners, j'y reviens pas plus que ça, mais c'est une tuerie. C'est trop cool. La BO de Sinners, c'est, je crois, un des albums que j'ai le plus écouté en 2025. C'est une tuerie. Happy End, film d'anticipation japonais sur une jeunesse perdue face à une société de surveillance. Ça m'a fait penser indirectement à un film qui doit avoir une quinzaine d'années, qui s'appelle Blue Spring, qui m'avait été conseillé par Julien, dédicace Julien. Il y a quelque chose sur la jeunesse perdue, sur l'actualisation à travers les thématiques de surveillance aujourd'hui, la reconnaissance faciale et tout ça, qui est vraiment pas inintéressant. Je vous conseille Happy End. No Other Choice de Park Chan-wook. Je vais pas m'étendre plus que ça non plus. Enfin, Park Chan-wook, il y a toujours une proposition. C'est vraiment un metteur en scène qui, comme beaucoup des meilleurs metteurs en scène sud-coréens, a vraiment un rapport fascinant au grotesque. Au sens où le grotesque, c'est un équilibre tellement difficile à manier, où tu peux pousser le grotesque dans quelque chose qui t'a de fascinant, d'une manière qui confine au génie, et si tu vas un poil de cul trop loin, tu tombes dans le ridicule absolu et tous tes effets se cassent la gueule. C'est une fine ligne. Et quand je vois les films de Park Chan-wook ou de... merde, Parasite, Bong Joon-ho, enfin, voilà, ce genre de gars, ils ont une manière, je sais pas comment ça s'explique culturellement via le cinéma sud-coréen ou le cinéma qu'ils ont localement là-bas, ou culturellement de manière beaucoup plus large que le cinéma, mais ils ont vraiment cette capacité à développer une approche du grotesque qui est fascinante dans les rapports humains, qui crée ce rapport à l'absurde, qui est à la fois hilarant et dramatique, qui est effrayant existentiellement. Et No Other Choice, c'est assez virtuose, quoi. Cadeau Lake, petit film produit par Shyamalan. Je sais pas jusqu'à quel point il a eu les mains dedans ou quoi que ce soit, ou s'il a juste fait... vous fais de la pub ou je vous file un coup de main, ça et là. Le nom du couple de réalisateurs m'échappe. C'est un film mindfuck de SF conceptuel, un petit peu puzzle façon des films comme Triangle, je sais pas si vous l'avez vu ou ce genre de choses. C'est très bien troussé, petite dédicace à Atom Visual qui me l'a conseillé quand on était à Los Angeles. C'est du travail de broderie très fine, ce type d'écriture mindfuck et la manière dont le mystère va se résoudre. Enfin bref, c'est une histoire de voyage dans le temps à travers des sortes de failles dans l'espace-temps que des personnages trouvent au milieu de la forêt. Ça vaut le coup d'œil. Hundreds of Beavers, que je vous avais déjà conseillé à la fin d'une vidéo, mais j'y reviens parce que, allez, s'il faut décider d'un film préféré 2025, c'est mon film préféré de 2025. Et même s'il est sorti en 2024. Je m'étais gouré, je pensais que c'était un film canadien, c'est un film américain en fait. Et un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé du fait que les comédies surréalistes, visuelles, me manquent beaucoup et ne se font plus aujourd'hui. Ça, c'est un contre-exemple absolument fou. Et il a été fait vraiment avec trois bouts de ficelle. Le réalisateur a fait tous les effets sur After Effects lui-même. Avec une esthétique qui est volontairement toute pétée, filmée avec un numérique qui granule comme si les ISO étaient trop forts. Enfin, il y a un noir et blanc vraiment craspec. Mais c'est une démarche et ça crée un univers particulier, vraiment. Et en termes de sa manière de manier l'humour slapstick, avec des références qui vont de Buster Keaton à Terence Hill et Bud Spencer, en passant par je sais pas qui, les Zaz, c'est virtuose, putain. Il y a un quart d'heure pour entrer dans le film, vraiment parce que c'est un délire particulier, et au bout de ce quart d'heure, si t'es dans le film, t'y es à 200%, et ça faisait très, très longtemps que je m'étais pas marré à ce point. Vraiment, ça fait du bien de découvrir ce film. Sorti nulle part, en fait, vraiment. Eddington, de Ari Aster. Il y a beaucoup de gens qui regrettent que Ari Aster, après Hérédité et Midsommar, ne fasse plus de films d'horreur. Mais Poe is Afraid et Eddington, c'est des films d'horreur. Presque encore plus que Hérédité et Midsommar. Ils en ont moins l'air de l'extérieur parce qu'ils sont pas vendus comme tels. Mais si le chaos du monde et l'absurde destructeur du monde vous chamboule, putain, Beau is Afraid et Eddington, c'est des films d'horreur existentielle, mais qui sont... C'est hardcore. Et c'est des films qui, particulièrement Eddington, qui respire et qui s'interdit... Enfin, on veut dire une écriture classique, mais c'est une évidence que le film n'est pas écrit de manière classique. Mais c'est des films qui refusent la résolution. Parce que Eddington, justement, parle de cette espèce de vague à l'âme et cette espèce de chape d'absurde qui nous est tombée dessus de manière inédite depuis quelques années. Et j'ai fini le film, j'étais... Quoi? Qu'est-ce que le film vient de me dire? Et je sais pas si le film sait ce qu'il vient de me dire, mais justement, il parle du fait de ne pas savoir de quoi on parle, parce qu'on ne sait plus ce que sont les choses. Et justement, cet absurde du monde, et ce vide existentiel. En plus, c'est un film qui se passe pendant la pandémie, et il y a littéralement un vide visuel qui est renforcé par les courtes focales, qui crée cette espèce de... Ouais, de vision très vide de ce monde qui est presque mort-vivant. Je sais pas ce que Aster va faire, parce que Eddington, ça a été un four, apparemment, comme Boys Afraid. Là, après deux gros fours comme ça, je sais pas comment il va se démerder pour continuer sur cette voie. Je suis très curieux vraiment de son prochain film à ce niveau-là. Sur le côté refus de résolution prémâchée, on a aussi Evil Does Not Exist, de Ryusuke Hamaguchi. Film japonais qui est très contemplatif, très beau, sur un petit village perdu dans les montagnes, enfin qui est pas perdu d'ailleurs, qui est dans les montagnes, et il y a un projet d'aménagement qui vient, projet urbain d'installation d'un glamping, et bien entendu il va y avoir des frictions entre les personnages, et c'est un film qui te dit pas, tiens, quand t'as fini le film, prends ça de l'autre côté, voici ce que tu dois amener de l'autre côté, il te laisse choisir ce que tu vas amener de l'autre côté, et finit sur une ambiguïté totale, un petit peu comme les The Banshees of Inisherin, qui était plus drôle, sur un registre plus comédique mais sombre aussi, il laisse vraiment cette espèce de souffle d'incertitude qui t'occupe l'esprit bien après le visionnage. Universal Language de Matthew Rankin, un cinéaste canadien que j'aime beaucoup, originaire de Winnipeg, qui a fait plein de courts-métrages vraiment saisissants, dont un sur Tesla qui est sur YouTube, que je vous conseille, qui est incroyable visuellement. Son premier long-métrage, c'était The 20th Century, qui est une comédie surréaliste avec une dimension visuelle folle. Vraiment, j'avais adoré son premier long métrage. Universal Language, c'est son deuxième. Et ça se passe dans un univers parallèle doux, Dans un Canada, en fait, où la langue officielle, c'est le perse. Et ça va suivre différents personnages dans des, voilà, des trajectoires croisées qui, dans la dernière partie du film, vont s'emboîter d'une manière assez inattendue, mais logique. Et voilà, c'est un film sur le fait de chercher ses racines, sur le fait de chercher une connexion avec les autres, qui est beaucoup moins ouvertement farfelu et moins haut en couleur que son précédent. Il y a un vague à l'âme beaucoup plus fort dans Universal Language. Tu sens que c'est quelque chose qui est très personnel, mais il y a toujours cette approche des cadres minutieusement préparés et qui perd souvent ses personnages dans des cadres trop grands pour eux. Et cette manière toujours de souligner le doux absurde des choses qui à la fois peut être angoissant parfois, mais qui crée cet attachement aussi aux autres dans certaines circonstances. C'est un film qui est doux. Ouais, qui est doux. C'est le mot que je retiendrai. Rumors de Guy Madin, qui est co-réalisé par Guy Madin et deux autres réalisateurs, mais Guy Madin, qui est un autre cinéaste canadien originaire de Winnipeg, que Matthew Rankin tient d'ailleurs en très haute estime. Et Rumors, c'est sur un G7 où les dirigeants du monde se réunissent pour parler des affaires. Denis Ménochet joue le président français, Kate Blanchett joue la chancelière allemande, et ainsi de suite. Et on se retrouvait en fait isolé dans un bout de nature où il y a... Les zombies se réveillent, il y a une invasion zombie. C'est peut-être un des Guy Madin les plus accessibles, mais ça n'empêche pas qu'il reste très très bon avec cette approche de la comédie doucement surréaliste qui est très particulière. Je recommande. Shelby Hawks de Chris Stockman, film d'horreur réalisé donc par le youtubeur cinéma Chris Stockman, qui n'est pas un youtubeur que je suis... particulièrement. Sa chaîne m'a jamais vraiment particulièrement intéressé, mais j'étais curieux de voir ce qu'il produirait pour son premier long métrage. C'est un truc qu'il a financé via crowdfunding, et ensuite, au fil des années, Mike Flanagan a repéré le truc et il a, en tant que producteur, réuni les fonds restants pour pouvoir boucler le film et lui donner vraiment une assez de gueule pour qu'il puisse sortir au cinéma. Déjà, le film se débrouille vraiment pas mal avec son absence de budget. Ça se sent à un certain moment particulièrement, pas juste dans les effets ou quoi que ce soit, mais dans certains cadrages qui font un petit peu trop amateur, notamment au début, quand on voit toutes les bagnoles de flics autour de la maison. Mais il s'en sort vraiment pas mal. Le truc, c'est que tout le monde est tombé sur la gueule de ce film en disant que c'était une merde. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, parce que c'est Chris Stockman. Et que ça faisait plaisir aux gens de lui tomber sur la gueule. Ah, youtubeur qui passe au cinéma, voilà, bim. Le truc, c'est que si Chris Stockman n'avait pas réalisé le truc et que le même film exactement était réalisé par quelqu'un que personne ne connaît, déjà personne n'y ferait particulièrement attention, personne ne dirait que c'est une merde et personne ne dirait que c'est génial. Les gens seraient juste en mode « oui, ça va ». Le truc, c'est que bien entendu, comme on pouvait s'y attendre, il y a beaucoup d'influence dans ce film. Tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui habitent Stockman dans son amour pour le genre horrifique. Mais bien entendu, c'est hélas des influences qui ne sont pas tordues à sa sauce. Il n'a pas... peut-être pas encore, en tant que réalisateur ou en tant qu'auteur, puisque c'est lui qui a écrit le film, une manière vraiment de digérer les codes et d'en proposer sa propre version. Contrairement aux frères Philippou, quand ils font Talk to Me et Bring Her Back, directement, bam, les mecs, ils installent vraiment leur propre dimension d'auteur. Là, avec Shelby Hawks, t'as affaire vraiment à une copie d'élève poli. C'est terrible de dire ça comme ça, hein ? Dream Eater, qui est un des films fan footage les plus hypés de 2025, le meilleur fan footage de 2025, si ce n'est le meilleur fan footage de la décennie. Réputation incroyable pour ce film. Au mieux, si on est de bonne humeur et vraiment dans la démarche la plus bienveillante, c'est au mieux médiocre. Mais je comprends pas. Don't believe the hype. Vraiment, encore une fois, il y a Eli Roth qui a repéré le film et qui s'en est fait le producteur, juste pour aider à sa visibilité. Bon, Eli Roth, voilà, c'est pas une référence, hein. Définitivement. Décidément, c'est pas une référence. Mais voilà, en termes de structure, c'est un copier-coller de Paranormal Activity, mais sans des personnages suffisamment attachants ou auxquels tu peux vraiment t'identifier pour que ça puisse fonctionner. Dans Paranormal Activity, qu'on aime le film ou pas, tu passes pas toutes les scènes à te dire « Mais vous êtes trop con !» Barrez-vous de cette maison, non ? Boum, on t'établit que, de toute façon, l'entité suit la nana, et la manière dont les personnages se comportent est plutôt logique. C'est pas du tout le cas dans Dream Eater, c'est un mec qui a des troubles du sommeil, je vais essayer si mon micro fonctionne encore, et il va s'isoler avec sa compagne dans une maison au milieu de nulle part pour que sa compagne filme ses troubles du sommeil la nuit. Déjà, oui, postulat, ouais. Ok, d'accord, suspension d'incrédulité si vous voulez. Mais quand nuit après nuit, le mec devient de plus en plus effrayant et violent, tu te barres. Surtout que le mec de jour, c'est pas comme s'il était possédé, à part dans la dernière partie du film, mais il y a toute une zone pendant les deux tiers du film où le mec, le jour, il fait « Ah bon, j'ai failli mettre ta tête dans le hachoir ?» Automatique. Mais vous vous barrez. Alors déjà, ça n'a aucun sens, les personnages sont complètement cons, et puis ça joue pas super. Notamment, il y a une scène où la nana est en... parle à un mec, un expert via Skype. T'as l'impression, mais c'est... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez gardé ça dans le film? C'est... Enfin bref, Dream Eater, je conseille pas. Par contre, si vous voulez voir le meilleur faux documentaire horrifique de 2025, et j'en parle en comparaison parce que souvent, fin de footage et faux documentaire, on les met ensemble, Strange Harvest, qui est un faux documentaire sur un serial killer qui part dans des dimensions très étonnantes, qui, contrairement à beaucoup trop de fin de footage et de faux documentaires horrifiques, refusent systématiquement les effets trop putassiers qui créent de toute façon pour les gens qui en ont quelque chose à foutre, qui soudainement les sortent du film. Le film se tient vraiment, c'est joué bien, c'est, vraiment il privilégie le réalisme de l'immersion et de ce qu'il raconte. Et il prend son temps et ça paye, vraiment. Et je terminerai par deux films que je qualifierais de révolution douce, c'est-à-dire des films qui donnent vraiment un désir de réel partagé, qui donne envie de connexion, qui donne envie de communauté, qui donne envie de réétablir vraiment la beauté simple de la vie à échelle individuelle, et ensuite à connecter avec les autres. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. C'est Perfect Days de Wim Wenders et Tokyo Cowboy. Deux films feel good, sans en rajouter des caisses dans le feel good, qui sont souvent drôles, parfois dramatiques, qui suivent vraiment cette espèce d'envie de connecter avec des gens. Et ouais... On manque de ce genre de film aussi en ce moment. Vraiment, si vous voulez voir des films qui vous font du bien et qui vous donnent envie, vraiment envie d'avoir envie, pour citer le poète, Perfect Days de Tokyo Cowboy. Je crois que c'est tout pour les films dont j'avais envie de parler dans cette vidéo en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo de news. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une fois une année fantastique. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.